Est-ce que vous savez déjà ce que ça veut dire être conduit par l'Esprit de Dieu? Voyez, il y a des choses auxquelles vous allez faire face, je suis sûr, parce que vous êtes, comme moi, des personnes avec des qualités, mais également des défauts. Vous savez des fois pas prendre des décisions. Des fois, vous prenez des mauvaises décisions. Des fois, vous prenez pas de décision du tout. L'Esprit de Dieu est là pour nous aider. Vous avez cet Esprit de Dieu, on va voir ce que c'est tout à l'heure, on va voir qui il est. Mais cet Esprit est là pour nous aider en différentes situations. La première situation que l'on verra la semaine prochaine, c'est comment nous comporter face à Dieu. Et on verra sur la vie de l'apôtre Paul face à Dieu, comment l'Esprit va le guider par une vision. Vous rappelez la vision de Damas ? C'est ce que l'on va étudier la semaine prochaine. Des fois, il y a des moments où dans ma vie où j'ai du mal, je ne sais pas quelle décision je dois prendre avec mes amis. Vous avez des amis, vous avez des personnes que Dieu a placées autour de vous. Comment agir vis-à-vis de face à vos amis? Et on va voir comment l'apôtre Paul, l'Esprit de Dieu, va le conduire par une mission. Ensuite, des fois, il y a des temps dans ma vie où je ne sais pas prendre de décision. Je ne sais pas si je dois forcer une porte, m'arrêter, prier, dire « Seigneur, est-ce que je dois insister pour ce travail? Est-ce que dans cette formation, elle est pour moi? Est-ce que dans ce plan du conjoint par rapport à mon mariage, est-ce que c'est toi là-dedans ?» Des fois, il y a l'inconnu. Et face à l'inconnu, ça sera la troisième étude que l'on fera. Le Saint-Esprit nous instruit par ses instructions, nous conduit par ses instructions. Ensuite, dans votre vie, vous allez faire face à l'ennemi. Pas forcément le diable en face de vous, mais plein de petites choses méchantes qui vous tombent dessus. Ça vous est arrivé aussi. Des moments où de partout, des fois ça vient de l'intérieur, de nos proches, des fois ça vient de l'extérieur, de personnes qui nous font du mal, face à l'ennemi, face à l'opposition. Et justement, l'esprit nous conduit par l'opposition, des fois. Et on verra ça, ça sera le quatrième point, comment le Saint-Esprit, dans l'opposition, nous conduit par l'opposition, ce qui est étonnant. Ensuite, on verra que parfois le Seigneur va placer des personnes qui ont des besoins à côté de nous. Et face à ces personnes, on verra comment l'apôtre Paul, le Saint-Esprit, l'a conduit par une onction. Avant-dernier, on verra Paul face à lui-même. Quand tu souffres, comment tu réagis face à ta propre souffrance, face à tes propres craintes, tes propres doutes. Et on va voir le Saint-Esprit, comment il a conduit Paul dans la restauration. Et on terminera. La dernière étude, ça sera comment le Saint-Esprit a pu conduire Paul face à toi, face à moi, face à nous. Et c'est le Saint-Esprit, comment il nous conduit par la compassion. Et on terminera la vie de Paul et on verra Paul en prison qui s'apprête à mourir, qui s'apprête à donner sa vie pour Jésus, pour l'Évangile. Il a toujours dit « Je n'ai pas honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Et alors qu'il est en train de se préparer à mourir, qu'il écrit sa dernière lettre aux Philippiens, on va voir comment Dieu remplit Paul, le Saint-Esprit remplit Paul et c'est la lettre vraiment de la compassion, l'amour de Dieu pour des personnes aussi décevantes que toi, que moi, comment le Saint-Esprit l'a conduit par la compassion. Mais je ne peux pas aller plus loin ce matin, je ne peux pas étudier toutes ces choses-là, je sais qu'il y a plusieurs choses sur mon cœur, mais je dois d'abord faire un point avec vous. Aujourd'hui, c'est l'introduction, et ce n'est pas forcément les bases seulement, c'est plus que les bases. Il y a des choses que vous avez besoin de comprendre et de revoir ce matin. Sinon, toutes ces études, on n'ira pas en profondeur. Ce matin, c'est l'introduction, c'est « Suis-je rempli de l'Esprit ?» Parce que ça ne sert à rien de demander au Saint-Esprit de vous conduire si déjà vous n'êtes pas rempli de l'Esprit. On va prier ensemble. Alléluia, on ferme nos yeux ensemble. « Suis-je rempli de l'Esprit ? Qui est l'Esprit ? Comment savoir si je suis rempli de Saint-Esprit ? Seigneur mon Dieu, je te prie pour que tu me donnes toute la clarté dans cette matinée. Parce que les choses que tu me demandes d'apporter sont des choses qui peuvent changer la vie, bouleverser nos comportements, nos façons de voir, notre théologie même. Seigneur, on a désespérément besoin de ton instruction à toi. Sinon, je voudrais m'effacer et que toi, tu grandis. Je voudrais diminuer et que toi, tu sois celui qui parle directement cœur à cœur avec quelqu'un ce matin. Seigneur, je te prie que justement cet esprit me conduise pour apporter ta parole en cette matinée avec autorité et force. Au nom de Jésus, amen, amen, amen. Suis-je rempli de l'Esprit ? Qui est l'Esprit ? J'ai posé cette question vendredi, pas plus tard qu'il y a deux jours, à des personnes qui suivaient les cours bibliques. Et je leur ai demandé de me dire, mais qui est le Saint-Esprit? Vous avez des années de conversion, j'entends un silence assourdissant. C'est qui l'Esprit pour vous? C'est qui le Saint-Esprit? Alors, dans votre tête, vous avez peut-être, on est nombreux ce matin, on ne va peut-être pas donner toutes les réponses, mais vous dites, ah, bah, c'est une personne, c'est une chose, c'est plus qu'une émotion, c'est plus qu'un sentiment, vous êtes d'accord avec moi? Oui, c'est une personne. Alors pour cela, je suis obligé de vous dire que vous connaissez Dieu le Père, vous le priez, vous priez le Père au nom de Jésus. Jusque-là, vous me suivez, hein, on reste biblique ce matin. Hein. On dit « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié », on prie le Père. Et on prie par Jésus parce qu'il est le médiateur, celui qui nous permet de prier le Père. D'ailleurs, Jésus vient du Père. Vous arrivez à me suivre toujours. Ces fameux concepts complexes de la Trinité, c'est pas évident à saisir. Il y a Dieu le Père dans le ciel et il est une personne, d'accord? Mais vous voyez, lorsque Christ est venu, il est venu du Père. Et sur la croix, c'est comme si Dieu se déchirait pour venir sur la terre, d'accord? Et Dieu était en Christ, nous dit la Bible, réconciliant le monde avec lui-même. Le Père, vous voyez, a cette faculté parce qu'il est tellement, il est un et il est amour de se déchirer. Et Dieu était en Christ, Dieu le Père était aussi en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Il y avait quelque chose qui venait du Père pour les hommes, d'accord? Et lorsque je prie Jésus, il y a cette unité entre Jésus le Fils et Dieu le Père, d'accord? Et enfin, vous vous rappelez ces dernières paroles de Jésus avant de quitter la terre? Il a dit à ses disciples, mais vous n'allez plus me voir physiquement. Mais j'ai une bonne nouvelle, parce que vous y gagnez. Vous gagnez à ne plus me voir parce que j'enverrai l'Esprit qui vient de Dieu, l'Esprit de Dieu, le Consolateur. Et c'est lui qui sera avec vous et qui va vous conduire dans tous les choix de votre vie. Soyez remplis du Saint-Esprit. Et il leur dit, dans Actes, vous connaissez ce qui se passe. Actes, ça commence comment? Reprenez le livre des Actes, Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. C'est merveilleux. Vous savez qu'on s'est trompé quand on a donné le titre de ce livre, hein? Parce que vous voyez, nous on est toujours humains, alors on essaie de s'encourager. Et on a dit les actes des apôtres. C'est surtout les actes du Saint-Esprit. Hein. Parce que c'est conduit par l'Esprit qu'ils ont accompli toutes ces choses-là. Et c'est vraiment les actes du Saint-Esprit. C'est le livre qui nous explique comment fonctionne le Saint-Esprit. Et c'est pour ça qu'au travers de la vie de l'apôtre Paul, on va se baser sur le livre des actes des apôtres pour pouvoir vous aider, vous, concrètement, à partir d'aujourd'hui, de dimanche prochain, dimanche d'après, à conduire votre vie par l'Esprit. Actes des apôtres, regardez le chapitre 1er, dès le début, au verset 4. « Or, un jour qu'ils prenaient un repas avec eux, Jésus leur recommanda de ne pas quitter Jérusalem et d'y attendre que son Père leur accorde le don qu'il leur avait promis. « C'est le don que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé dans l'eau, mais vous, c'est dans le Saint-Esprit que vous serez baptisés dans peu de jours. » Alléluia. Alléluia. Et après, on a perdu, hein. On a perdu Jésus de vue. Il est parti dans les airs. C'est ce que nous dit le chapitre 9, le verset 9. Après ces mots, ils le virent s'élever. Mais vous voyez le verset 8, la dernière parole que Jésus dit. Mais le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie et jusque dans la ville de Créteil. Amen. C'est vrai, c'est ça, hein, jusqu'au bout du monde. Vous savez, au moment où c'est écrit, Créteil, c'est à peu près le bout du monde. Il y a Lutèce en Gaule, ça doit être un des coins les plus éloignés par rapport à l'Empire romain. Première question. Ce matin, on va voir deux choses. C'est frustrant parce que je veux vraiment faire les choses le plus complet et en même temps, je suis vraiment tenu par le temps et je veux pas que vous décrochiez à aucun moment. Ai-je l'Esprit de Dieu? Est-ce que vous avez l'Esprit de Dieu en vous? C'est une question. Est-ce que vous avez l'Esprit de Dieu en vous? Il y a quelqu'un qui était un religieux, qui passait son temps dans les temples et qui n'avait pas l'Esprit. Il s'appelle Nicodème. Et Jésus lui parle et lui dit, Nicodème, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut pas avoir la vie éternelle. La vie éternelle, la vie de l'esprit, il faut naître d'eau et d'esprit. Déjà, est-ce que vous êtes né d'eau ? Alors vous allez, vous savez, Nicodème, il n'a pas compris toutes ces choses. Il dit, mais je ne peux pas rentrer encore dans le ventre de ma mère, etc. Mais c'était deux choses que Jésus disait. Il disait le baptême d'eau, parce que c'était référence au baptême que vous avez pris, peut-être vous qui êtes baptisé par immersion. Vous savez que quand on dit baptême par immersion, c'est un pléonasme. Hein, c'est comme si je disais monter en eau. Parce que baptiser, ça veut dire immerger par immersion. Vous aurez du mal à être immergé autrement que par immersion. Mais bon, vous savez, nous, les religions sur la Terre, on a réussi à inventer l'immersion par aspersion. On est fort, hein. On est fort, mais bon. Alors, quand Jésus dit « Est-ce que vous avez été immergé ?» Ça commence par un « immersion dans l'eau ». Celui qui naît de Dieu naît dans l'eau. Lorsque je prends mon baptême, lorsque j'ai fait un jour, je me rappelle encore, moi, je peux vous donner la date, c'était en 95, c'était le 18 juin, vous voyez, c'était l'appel du 18 juin. L'appel du 18 juin, j'étais dans l'eau, j'étais dans une piscine, et dans mon cœur, j'avais dit, Seigneur, je te suivrai tous les jours de ma vie. Alors, c'était juste la confirmation publique, comme dit Jésus à Nicodème, si tu nais d'eau, eh ben, j'ai fait plouf ce jour-là, et je suis ressorti à la vie, j'ai respiré, je détestais rester dans l'eau, vous aussi, parce que sinon, on meurt dans l'eau, et quelque part, quand on sort, on respire, et on naît d'eau. D'eau, voilà, d'accord, vous êtes né d'eau parce que vous avez confessé Jésus comme votre Seigneur et Sauveur. Et à ce moment-là, au moment où vous êtes converti, où vous avez fait un changement de décision, la Bible dit, vous avez reçu un Esprit de Dieu qui fait de vous des fils et des filles de Dieu. À partir du moment où vous avez dit, Seigneur, je quitte la direction de ma vie pour te mettre toi sur le trône dans ma vie, le Saint-Esprit étant aux commandes, il vient en vous. Le Saint-Esprit ne vient pas faire les seconds rôles, vous voyez. Si vous dites, Seigneur, je t'aime bien un peu, mais je vais surtout garder le contrôle, le Saint-Esprit dit, reste chez toi, je reste chez moi. Mais si tu te convertis, tu changes de vie, tu changes ta façon de gérer ta vie, tu dis, Seigneur, maintenant c'est toi qui diriges ma vie, alors tu es né d'esprit. Et il y a un verset magnifique qui est dans 1 Corinthiens 16, marquez-le simplement. Vous devez le retenir celui-là parce que c'est très très important. 1 Corinthiens 16. Oh, je vais aller le chercher finalement. Je n'avais pas prévu, mais... 1 Corinthiens 6, pardon, j'ai dit une erreur. 1 Corinthiens 6. Verset 17. 1 Corinthiens 6, verset 17. Je veux que vous l'appreniez par cœur. Il y a des versets que vous devez connaître par cœur. Il y a des mots de Dieu, il faut les connaître par cœur. Par exemple, ce verset, il est essentiel. 1 Corinthiens 6, verset 17, elle dit « Mais celui qui s'unit au Seigneur devient, lui, un seul esprit avec lui. » Un peu plus loin, 1 Corinthiens 3, 16, « L'Esprit de Dieu habite en vous, » dit l'apôtre Paul. Un peu plus loin dans Romains 8, non un peu avant dans Romains 8, 15, il est dit « Vous avez reçu un esprit d'adoption. Vous avez reçu le Saint-Esprit. » Sinon, vous ne pouvez pas dire, nul ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est par l'Esprit de Dieu. Vous tous qui avez décidé de dire « Dieu, je te laisse le contrôle de ma vie, j'ai une information capitale pour vous, vous devez savoir que Dieu est résident permanent chez toi. » Dieu est résident permanent chez toi. Mais Seigneur, comment tu peux rester à l'intérieur de quelqu'un aussi décevant que moi ? Vous savez, il a l'habitude de traîner avec des gens décevants. Il a traîné avec le peuple d'Israël qui était aussi décevant que toi. Il était dans la tente, vous rappelez ? Parce qu'à l'époque, il habitait pas des corps comme nous, il habitait la tente de la rencontre où il rencontrait Moïse. Ah, ça l'énervait d'ailleurs de temps en temps, il disait « Mais si vous arrêtez pas, je vais devoir partir ». Mais Dieu était dans ce temple et il conduisait le peuple de Dieu. Et il est resté, alléluia. Il est resté avec eux malgré leur sale caractère, malgré leur crise de nerfs, malgré leurs doutes, malgré leurs craintes, malgré les fois où ils ont péché. Dieu est resté dans cette tente À chaque fois, vous savez, quand vous avez le Saint-Esprit, il y a une grande différence, hein, vous tous qui avez reçu le Saint-Esprit, il y a une différence par rapport à avant. C'est que avant, quand vous péchiez tranquille. Maintenant, quand vous péchez, normalement, vous ne devez pas pécher tranquille. C'est le signe que le Saint-Esprit est à l'intérieur de vous. Parce que lorsque tu vas dire des paroles blessantes à quelqu'un, si tu es un enfant de Dieu, tu vas sentir un aïe dans ton cœur. Lorsque tu vas mettre devant toi des décisions mauvaises et que tu vas prendre ces décisions mauvaises, tu vas sentir qu'il y a quelqu'un, pas quelque chose, quelqu'un qui a attristé à l'intérieur de toi. C'est le Saint-Esprit. Quand vient-il en moi ? Le Saint-Esprit vient en toi au moment où tu lui dis « Seigneur, je te donne mon cœur, je te donne ma vie ». Vous connaissez ce chant, hein ? Combien de fois vous l'avez chanté ? J'espère que vous le vivez. Alors maintenant, j'ai une deuxième. J'ai que deux questions ce matin. Donc la première, c'est « Ai-je l'Esprit de Dieu ?» Oui, tu as l'Esprit de Dieu à partir du moment où tu as donné ton cœur au Seigneur. Si tu n'as pas donné ton cœur au Seigneur, si tu n'as pas plié le genou devant Dieu, si tu n'as pas reconnu Jésus, non seulement comme ton sauveur à la croix, mais comme ton Seigneur personnel, non, tu as encore une étape à faire. Il faut que tu changes complètement de voie. Et là, tu recevras l'Esprit de Dieu qui fera de toi un enfant de Dieu. Et c'est essentiel. Fais-le. Fais-le. Maintenant, pour tous ceux qui sont convertis, qui ont donné leur cœur au Seigneur, vous avez l'Esprit de Dieu et il est uni à vous. Il est uni. Vous êtes uni à l'Esprit de Dieu. Il est résident permanent. Mais ce n'est pas pour autant que vous êtes rempli du Saint-Esprit. Et je fais une différence entre avoir le Saint-Esprit et être, vous voyez, quel serait le maximum de rempli ? Bon, ça serait rempli jusqu'à combien ? Vous savez, à un moment, la Bible dit dans Ézéchiel, il y avait une vision, rempli jusqu'aux chevilles, de l'eau jusqu'aux chevilles. Non, il y a plus, de l'eau jusqu'aux genoux. Non, il y a plus, de l'eau jusqu'à la hanche. Non, il y a plus. Il y a un moment où tu nages dans l'esprit. T'as de l'eau au-dessous. Vous savez que moi, j'ai toujours essayé de nager en gardant la tête hors de l'eau. On n'avance pas. Hein. Vous avez remarqué que les vrais nageurs, les pros, ils passent beaucoup plus de temps dans l'eau pour nager qu'en dehors. Il n'y a quasiment rien qui... Vous les voyez et tout d'un coup, ils sont dans l'eau et tout d'un coup, et ils repartent dans l'eau. Ils sont remplis, immergés, baptisés. En fait, ça revient exactement à ça. Alors moi, la question maintenant, après la question 1, ai-je l'esprit ? 2, êtes-vous baptisé dans l'esprit ? Êtes-vous immergé jusqu'à déborder ? Silence. Est-ce que vous le savez ou pas ? Je me dis, mais Seigneur, parce que vous voyez, il leur a dit quelque chose aux disciples. Il leur a dit, vous restez à Jérusalem. Il y a 10 jours, pendant 10 jours, ils ont dû attendre parce que pendant 40 jours, il leur a montré des preuves merveilleuses de sa résurrection. Mais il leur manquait quelqu'un. Vous avez eu ce texte, Jésus dit, mais attendez jusqu'à ce que vous recevez une puissance, celle du Saint-Esprit, descendant, et vous recevrez le baptême dans l'Esprit. C'est quoi, Seigneur ? Vous voyez, si le Seigneur vous dit d'attendre quelque chose, il faut bien que quand ça vienne, vous le sachiez le reconnaître. Alors, je peux vous dire une chose. Est-ce que vous avez le Saint-Esprit ? Oui, mais est-ce que vous êtes baptisé dans le Saint-Esprit ? Il n'y a que vous qui le savez. Et vous le savez comment ? Il y a certainement, Dieu a certainement dû mettre en place un signe, enfin quelque chose. Parce que sinon, je vais chercher toute ma vie, je vais attendre toute ma vie. Vous voyez, les apôtres, ils étaient là à Jérusalem, ils attendaient un jour. Est-ce qu'ils prient ? Oui, ils sont dans la prière. Est-ce qu'ils méditent la parole de Dieu ? Oui, ils méditent la parole de Dieu. Et pourtant, ils ne sont pas baptisés dans le Saint-Esprit. Un jour, 2 jours, 3 jours. Je suis sûr qu'il devait y avoir des super réunions. Il y avait le prédicateur, l'apôtre Pierre, il y avait Jacques qui devait reprendre derrière, il y avait Jean, c'était des réunions super. Mais ils n'étaient pas baptisés dans le Saint-Esprit. Et un jour, le jour de la Pentecôte, regardez dans Acte 2, dans Acte 2. Comment savoir, Seigneur, si je suis baptisé dans le Saint-Esprit ? Tu as forcément dû mettre en place un signe. Parce que sinon, on ne saura pas discerner ce que c'est. Est-ce que quelqu'un... Il y a des sœurs ce matin, c'est obligé. Je suis obligé de faire une bonne pioche. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un produit L'Oréal ici? Allez, cherchez un petit peu. T'as quelque chose dans ton sac? Super. Alléluia. C'est la première fois que... Est-ce que c'est possible? Il y en a, t'en as pas? Vous savez, un rouge à lèvres ou quelque chose L'Oréal? Tu as quoi? C'est un quelle marque? Guerlain. Si je prends. Je prends Guerlain, super. C'est un rouge à lèvres, c'est ça? Merci. Pourquoi c'est du Guerlain? Parce qu'il y a la marque. Vous voyez, Guerlain est suffisamment intelligent pour marquer Guerlain, vous ne le voyez peut-être pas, mais moi je le vois, pour marquer Guerlain au cas où on croit que c'est du L'Oréal. Que c'est du Gémé Maybelline ou je ne sais pas quoi. Ils mettent Guerlain parce que vous voyez, ça authentifie que ça vient de chez Guerlain. Parce que sinon, c'est simplement un rouge à lèvres. Mais vous voyez, Guerlain va investir pour qu'il y ait une marque qui le différencie de tous les autres rouges à lèvres classiques. Et vous croyez que malin comme Guerlain, Dieu n'est pas suffisant pour lui, le Dieu des dieux, mettre une marque, un signe, pour te dire que ça vient de chez lui? Dieu met un signe. Et donc, c'est pour ça que les apôtres, merci, c'est pour ça que les apôtres, tant qu'ils n'ont pas reçu, il n'y avait pas le signe. Regardez ce qui se passe. Verset 4 du chapitre 2. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans différentes langues, chacun s'exprimant comment le Saint-Esprit lui donnait de le faire. Amen. Tout d'un coup, il y a eu un vent violent. Le Saint-Esprit, comme un feu, est rentré dans la pièce. Et ils furent baptisés dans le Saint-Esprit et automatiquement... Le débordement dont je parlais tout à l'heure, intérieur, sort à l'extérieur. Et vous avez cette bouche-là, l'apôtre Jacques dit, c'est l'organe qu'on maîtrise le moins. De cette bouche, on dit du mal, de cette bouche, on dit du bien, il ne faudrait pas qu'il en soit ainsi. Personne n'arrive à mettre une bride, un mort sur sa langue pour se taire. Qu'est-ce que des fois je regrette de parler? Vous aussi, des fois? Si j'ai pas dit cette bêtise. Donc combien de fois dans... Peut-être vous dites, ah, ça m'a échappé. On contrôle si mal cette langue. Le Saint-Esprit lui la contrôle parfaitement. Et c'est un petit clin d'œil de Dieu. Il dit, je vais te donner la preuve que ça vient de Dieu. Parce que pour une fois, tu dis, il n'y a que des louanges qui sortiront de ta bouche. Et quand tu es baptisé dans le Saint-Esprit, Dieu te donne une langue des hommes ou des anges qui te fait louer Dieu dans une langue inconnue. Et le jour de la Pentecôte, ils étaient tous là. Il y avait des Parthes, des Mèdes, des Élamites, des Égyptiens, tout le monde. À Jérusalem, c'était le grand carrefour des religions. C'était en gros au bas de la tour Eiffel, si vous préférez. Il y a toutes les langues au bas de la tour Eiffel. Du coup, ils ont parlé en langue et forcément, il y avait tellement de personnes. Il y en a, ah, mais ça, c'est du Parthe, là. Et quelqu'un dit, ah, mais ça, c'est de l'Égyptien. Je connais, c'est l'Égyptien. Et ils étaient émerveillés, nous dit la Bible, parce qu'ils entendaient parler. Verset 11, nous venons de Crète, de l'Arabie, et pourtant chacun de nous les entend parler dans sa propre langue des choses merveilleuses que Dieu a accomplies. Amen. Seigneur, tu as permis que je parle en langue. Je peux dire, le 4 août 1991, il était 22h, c'était à la fin d'une réunion. J'étais frustré sur ma chaise, ça faisait des longtemps que je disais, Seigneur, s'il te plaît, baptise-moi dans le Saint-Esprit. Je sais que j'ai déjà le Saint-Esprit parce que je suis converti, mais je veux plus, Seigneur, je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Et je priais et le pasteur est venu et je me suis dit, ah, si l'homme de Dieu va m'imposer les mains, je vais recevoir et j'ai pas reçu. Alors j'étais deux fois plus frustré. Et le chant, je lui dis, ah, peut-être que s'il y a un meilleur temps de louange. Vous savez, on veut toujours contrôler. On se dit, s'il y a ça, 1 plus 1 plus 1, et ben ça va faire mieux. Et j'étais là, Seigneur, si jamais le piano joue mieux et que le leader de louange, il est plus inspiré. Et que Il ne s'est rien passé de plus. La réunion est finie, on a même fait les annonces. Vous voyez le kata, là, les annonces, là où spirituellement ça chute, là, boum. Fin de la réunion. Et frustré sur ma chaise, j'étais là, Seigneur, tu ne m'as pas baptisé, pourtant je voudrais. Et j'étais en train de dire, Seigneur, je te bénis quand même. Et la Bible dit, ouvre ta bouche et je la remplirai. Et j'étais en train de louer avec mes pauvres petits mots, parce que comme toi, j'ai une louange très médiocre. Hein. Seigneur, tu es grand, Seigneur, tu es bon, je t'aime, alléluia, merci Seigneur, gloire à Dieu. Et puis tu es bon encore, et puis tu es grand et très très grand. Et je suis aussi frustré que toi, et j'étais sur ma chaise, mais j'étais, Seigneur, je veux plus. Je veux pouvoir nager dans la louange. Et là, sur ma chaise, à la fin des annonces, réunion terminée, espoir perdu normalement. Une petite bribe de parole dans une langue que je ne maîtrisais pas. C'était tellement génial que ça ne venait pas de moi. J'ai senti vraiment que le Saint-Esprit descendait en moi et commençait à parler. Alors je me suis dit, oh là là, là 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 là, Yvan, c'est merveilleux ça. Du coup, il faut que tu te forces. Alors j'ai commencé à essayer de me forcer à parler le plus longtemps possible en langue, de peur que ça parte. Mais vous savez que le Seigneur ne se repent pas de ses dons, dit la Bible. Quand Dieu donne, il donne. Il n'est pas du genre à, si tu demandes un pain, à te donner un caillou. Si tu demandes un œuf, te donner un serpent, à combien plus forte raison le Père Céleste saura donner le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent, nous dit la Bible. Et il le reprend pas. Quand il a donné, il va pas dire, je t'arrache ton pain. Il le laisse. Je suis parti dans ma chambre et là, j'ai commencé à parler en langue et maman m'a dit, t'inquiète pas. Je dis, maman, mais si demain, c'est plus là. Je dis, demain, ça sera là. Dieu est Dieu et demain ça sera là. Et le Saint-Esprit, je vais vous dire une chose, c'est le seul miracle quotidien que vous pouvez vivre. Je ne sais pas combien sont sauvés ici. Je ne sais pas combien sont baptisés dans le Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'on fait cette expérience où, étant remplis du Saint-Esprit, à l'intérieur d'eux, ils ont senti une petite voix, cette voix du Saint-Esprit. Et c'est quand même vous qui ouvrez la bouche. Hein. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui va ouvrir la bouche pour vous. Hein. Parce que Dieu dit dans sa parole, l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. C'est vous qui gérez. Hein. Mais c'est simplement laisser le Seigneur parler au travers de vous. Et j'ai pu parler en langue. J'ai pu louer Dieu dans une langue que je ne maîtrisais pas. Ah, des fois, je me suis dit, Seigneur, est-ce que c'est moi qui invente ? Je n'ai pas le temps de vous raconter toutes les expériences que j'ai faites, mais une fois, j'ai vraiment douté. Et je dis, Seigneur, si ça vient de moi, je suis peut-être en train de dire n'importe quoi. Vous savez, je suis plutôt un scientifique, je fais des études d'économie, j'ai fait un bac S, j'étais plutôt rationnel. Et plus vous êtes rationnel, plus vous allez vouloir tout contrôler. Je dis, Seigneur, peut-être que j'invente ces mots-là, peut-être que ça te déplaît en plus, parce que ça veut dire que je fais semblant depuis des années. Et j'étais en panique, comme tu vis des paniques aussi. Et Dieu, il m'a dit, ok, si c'est comme ça, j'arrête tout. J'ai plus été capable de dire un mot en d'autres langues. Ça a été un vide sidéral pendant quelques minutes, les plus longues de ma vie. Plus rien qui sortait. Le Saint-Esprit ne m'utilisait plus, je ne parlais plus en langue. Mais Dieu, dans sa bonté, qui ne se repent pas de ses dons, m'a dit, t'as compris ? Ah, j'ai compris, Seigneur, j'étais mal. J'ai dit, Seigneur, je te promets que je ne douterai plus jamais que c'est toi qui donnes le parler en langue. Au même moment, il m'a donné une nouvelle langue. Avant, je disais aux personnes qui étaient au cours de baptême vendredi, mais avant, c'était plutôt un truc germanique, quelque chose, parce que c'était des gueux. Et tout d'un coup, il m'a passé en espagnol d'Amérique latine, un truc qui... Et je dis, Seigneur, ça peut être que toi là-dedans. Ça peut être que toi. Au cas où il y a des jeunes dans la salle, vous n'allez pas choisir votre sonnerie, hein. Vous tapez pas 1, 2, 3, 5. Hein. Laissez le Saint-Esprit vous conduire. Il parle à Dieu. La Bible dit qu'il scrute les profondeurs de mon cœur et il adresse à Dieu des adorations. Quand je n'ai plus rien à dire, le Saint-Esprit prend le relais. J'espère que tu parles en langue. C'est ton miracle quotidien. Tu en vois des miracles, toi, tous les jours ? Moi, je ne vois pas des miracles tous les jours. Des fois, je suis malade, je dis, Seigneur, guéris-moi. Il ne me guérit pas. Il me dit, ma grâce te suffit. Oh, bah oui, c'est la vie aussi avec Dieu. Mais par contre, il y a un miracle de tous les jours. C'est qu'à chaque moment que je le veux, que ça aille bien, que ça aille pas bien, je vis ce miracle quotidien où je me mets sur mes genoux et je dis, Seigneur, je commence en français et je te loue en langue après. Est-ce que vous bénissez le Seigneur pour ce miracle quotidien? Il y en a qui vont me dire, mais est-ce que c'est indispensable d'être baptisé dans le Saint-Esprit? Non, c'est pas indispensable. C'est pas indispensable. n'est pas indispensable. On peut dire que tu peux, c'est comme la voiture, c'est comme l'appartement. Tu peux avoir un studio de 9 mètres carrés. On peut vivre à 14 dans un studio de 9 mètres carrés. On peut être à 6 dans une Twingo. Ça va être serré. Maintenant, si le Saint-Esprit a prévu pour toi une Porsche que tu laisses au garage pour prendre ta petite Twingo à 6, c'est comme tu veux. Mais le Saint-Esprit a tellement mieux. A tellement mieux. Vous allez me dire, mais bon Seigneur, je suis d'accord, si tu veux, tu peux me baptiser dans le Saint-Esprit. Vous faites toujours comme ça avec le Seigneur. Seigneur, si tu veux, quand vous voulez quelque chose, vous le demandez sérieusement et vous y mettez les moyens. Je ne sais pas s'il y a des cuisinières ce matin, mais vous êtes dans la cuisine là, vous travaillez et vous dites, Seigneur, si tu veux que je mange un poulet à midi, tu me le fais dorer, amen. Eh, dis, ton poulet, tu l'auras jamais. Il y a un moment où Dieu dit, mais bouge. Mais ouvre ta bouche et je la remplirai. Si tu vas attendre comme ça, le jour de la Pentecôte, tu vois, c'est pas une attente en disant, quand tu voulais, Inch'Allah, il faut aller un peu plus loin, la mosquée, c'est là-bas. Si tu veux vraiment être rempli dans le Saint-Esprit, tu dis, Seigneur, je veux être baptisé dans le Saint-Esprit et je lâche pas l'affaire. La première condition, tu l'as, c'est être converti. Si tu es converti, la deuxième condition, c'est vouloir. Vouloir, est-ce que tu le veux? À partir du moment où tu es converti et que tu veux, il n'y a plus d'autres conditions. Oui, mais je suis pas assez sanctifié. Il n'y a rien du tout dans la Bible qui le dit. Simplement le fait de est-ce que tu veux être rempli du Saint-Esprit. Il y a un autre moment où d'ailleurs, ça, pardonnez-moi l'expression, mais ça a scotché tous les disciples qui étaient un peu légalistes. L'apôtre Pierre, il est allé chez Corneille. Corneille, vous savez ce que ça veut dire Corneille? Un Romain. Romain, exaction, des meurtres, des viols. Pigalle, c'était rien à côté. Si jamais on dit qu'un pasteur est allé évangéliser à Pigalle, c'est à peu près ce qui s'est passé lorsque Pierre est allé évangéliser chez Corneille. Et à la fin, il est en train de leur parler. Prie pour eux, dis donc. Et qu'est-ce qui se passe? Ah, je suis obligé de vous le dire, on va bientôt se quitter, mais je suis obligé de vous le dire. Il ne s'est rien passé? Ah, c'est merveilleux, mes amis. C'est merveilleux ce qui s'est passé. C'est dans Actes, au chapitre 10, il fait le rapport. L'apôtre Pierre revient vers tous les chrétiens un peu légalistes. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Seigneur, comment ça? Tu peux baptiser dans le Saint-Esprit les personnes de Pigalle? Bien sûr. À partir du moment où la personne est convertie, elle décide de changer de vie. Il n'y a plus rien. Son passé est effacé, ses qualités, tout ça, c'est une nouvelle création. Rien ne l'empêche d'être baptisé dans le Saint-Esprit. Rien ne t'empêche d'être baptisé dans le Saint-Esprit. Et tous les autres, ils étaient là, oui, mais nous, ça fait des années qu'on attend et tout, on est plus spirituel. Mais l'apôtre Pierre va revenir vers eux et va leur dire, mais mes amis, est-ce qu'on peut refuser le baptême dans l'eau à des personnes qui ont déjà été baptisées dans le Saint-Esprit? Si Dieu les a déjà baptisés dans le Saint-Esprit, oui, mais Pierre, t'as une preuve de ce que t'avances? Qu'est-ce qui prouve qu'ils ont été baptisés dans le Saint-Esprit, hein? Eh bien, regardez ce qui est dit. Car il les entendait parler en langue et glorifier Dieu. Amen. Ça, ils ont dit, bon d'accord, c'est la preuve. On arrête là les négociations. C'est vrai, le Saint-Esprit peut prendre n'importe qui a le vœu, qui est converti et qui peut le remplir et le faire vivre cette expérience extraordinaire d'adorer Dieu en d'autres langues. Amen. Est-ce que vous avez faim? Moi, je ne peux pas vous donner la faim, hein. Vous voyez, je peux arriver vers vous, je peux dire, la Bible dit de prier à chaque fois. L'apôtre Paul, quand il est allé à Éphèse, c'est pareil, il leur a imposé les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Ils parlèrent en langue et prophétisaient, nous dit le texte dans Actes 19. Je peux vous en prendre plusieurs des textes de la Bible. À chaque fois, je remarque que c'est ça que Dieu fait comme un signe pour dire, arrêtez de chercher, il est arrivé. Je pense que certains d'entre vous, vous allez me dire, mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est, je suis pas loin. Oui, c'est possible que t'es pas loin. Il y avait quelqu'un qui me disait, j'espère qu'il m'en veut pas, je vais juste donner ce témoignage, mais c'est important. Il me disait, pasteur, je me pose une question. Des fois, je me vois en rêve Et dans mon rêve, je suis en train de parler en d'autres langues et de célébrer Dieu dans des langues inconnues. Et pourtant, quand je suis réveillé, je lui dis, t'as le même problème que les rationnels, toi. C'est-à-dire que lorsque tu n'es pas en contrôle, tu vois, je pense que c'est quelqu'un qui, vous voyez, le Saint-Esprit est déjà là, mais il est juste bloqué à la sortie. Il est à l'intérieur, mais il est bloqué à la sortie. Et cette personne a tellement peur de dire des erreurs, de se tromper ou d'inventer, qu'elle bloque et elle ne parle pas en langue dans sa vie tous les jours. Quel dommage. Alors il faut attendre la nuit et le fait de faire dodo pour parler en langue. Qu'est-ce que c'est dommage. Mais je crois que cette personne est baptisée dans le Saint-Esprit. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Il faut juste ouvrir la bouche. Je dis cette personne parce que cette personne, c'est toi. Il y en a plein d'autres dans la salle. Et c'est pour ça que je me permets exceptionnellement de reprendre un témoignage. Parce que ça peut t'aider toi. Dieu veut que vous soyez remplis du Saint-Esprit. L'apôtre Pierre a dit, et je termine avec ça, car la promesse, elle est pour vous, pour vos enfants, en aussi grand nombre que le Père Céleste les appellera. Et l'apôtre Paul, à la fin de sa vie, il dit, oh, je suis content d'une chose. Vous savez de quoi il était content? On termine ce matin, fin de l'introduction. Je vous souhaite de terminer comme l'apôtre Paul. Il a terminé en disant, je suis content d'une chose, c'est que je parle en langue. C'est rare qu'il se fasse qu'il se vante, hein, l'apôtre Paul. Mais il dit, je suis content que je parle en langue plus que vous tous. Parce que c'était quelqu'un qui était rempli de l'esprit. Alors, à partir de ce moment-là, on pourra bosser dimanche prochain sur qu'est-ce que ça veut dire maintenant être conduit par le Saint-Esprit. Mais d'abord, demander à être rempli du Saint-Esprit. On ne peut pas aller plus loin. C'est pour ça que j'ai voulu ce matin faire. Soit on fait l'introduction ou on ne la fait pas. Soit vous passez la première marche, c'est-à-dire, oui, c'est vrai que vous êtes converti. Si quelqu'un n'est pas converti ce matin, c'est le moment de te tourner à Dieu. Dieu a des projets incroyables. Tu as un ami céleste qui veut venir travailler avec toi, qui veut te conduire dans toute ta vie. Oui, le Saint-Esprit peut te conduire sans que tu sois baptisé, mais c'est juste bien dommage. Parce que tu limites son action. Fermons les yeux ce matin. Le Saint-Esprit est là et il n'a pas changé. Au souffle de Dieu, nous t'invitons. Est-ce que tu veux chanter ce chant? Est-ce que tu veux, alors que les yeux sont fermés, dire au souffle de Dieu? Là où le Saint-Esprit est, c'est la liberté. On ne donne pas d'ordre au Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous donne ses instructions. Par contre, on peut le réclamer. On peut dire, Seigneur, je veux une nouvelle dimension dans l'esprit ce matin. J'ai de l'eau jusqu'à la cheville, mais je voudrais avoir de l'eau jusqu'au-dessus de ma tête. Oui, mais est-ce que tu es prêt à ce moment-là à perdre le contrôle de ta louange? Alléluia. Alléluia. Seigneur. Il y a des personnes ce matin, je suis sûr que vous vous sentez culpabilisé parce que vous aviez prié pour recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Dieu vous a donné ce moyen extraordinaire et vous avez garé la Cadillac dans le garage et vous ne l'utilisez jamais. Et Dieu dit, c'est bien la peine de te donner quelque chose que tu utilises jamais ou si peu. L'apôtre Paul dit, je parle en langue plus que vous tous. C'est ça qui le ressourçait, c'est ça qui lui faisait du bien. Adore Dieu en d'autres langues. Ta louange, elle ne dépasse des fois pas le plafond et tu te sens frustré. Adore Dieu en d'autres langues. C'est pas à l'église qu'il faut le faire. C'est dans ton culte personnel. C'est pas à l'église qu'il faut le faire. C'est dans ta voiture sur le chemin du boulot. C'est pas au culte qu'il faut le faire. Mais c'est au moment où tu te mets à part chez toi. Tu vas sur ton balcon. Tu rentres dans ta chambre. Tu fermes la porte peut-être. Et là, tu commences à adorer Dieu. Alléluia.
Nos cœurs, en nous souffle. humble devant toi. À l'écoute de ta voix, rendons sensible à ton cœur. Sois le roi, sois le Seigneur. Souffle, souffle de Dieu pour ta
la musique continue, on garde les yeux fermés un instant. Seigneur Jésus, tu as dit que tu enverrais sur nous le Saint-Esprit. Alléluia, il n'y a pas de favoritisme dans l'équipe du Seigneur. Il y a des timides, il y a des exubérants, et pourtant le jour de la Pentecôte, sur les plus de 140 qui étaient là, il y avait forcément un plus timide que toi. Et pourtant Dieu l'a baptisé dans le Saint-Esprit parce qu'ils furent tous rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Est-ce que c'est possible de prendre un chant de louange où on célèbre Dieu, un chant où on adore Dieu, pour terminer ce temps? Gardez les yeux fermés un instant. Restez concentrés sur Dieu. Ne vous laissez pas troubler. On a tellement de moments dans la semaine où on est déconcentré, mais ce matin, juste un peu encore. Qui est Jésus pour toi? Commence à remercier Dieu déjà pour ce qu'il t'a fait pour toi dans le passé. Commence à dire, Seigneur, utilise ta langue déjà maternelle pour louer Dieu. Parce que si celle-là n'est pas utilisée, le Seigneur ne sera pas très incité à t'en donner une nouvelle.